Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, c'est votre émission sur Europe 1 puisque nous sommes persuadés que c'est vous qui êtes les acteurs du changement et ce changement, il est plus que jamais engagé avec la crise que nous traversons. Elle a, c'est vrai, bouleversé notre quotidien et va d'ailleurs probablement continuer à le faire. Mais ce qu'elle nous montre aussi, c'est notre formidable capacité à nous réinventer. Pour accueillir ceux et celles qui agissent à mes côtés chaque jour, elle est là. C'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous.
Notre coach est aussi au rendez-vous toute cette semaine. C'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, qui nous accompagne. Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes
bonjour
et à tous.
Bonjour Fred.
Pendant deux mois, c'est vrai que l'économie a tourné au ralenti, elle repart, mais ce sera long. Et pourtant, vous allez voir que cela n'empêche pas les Français de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Bonjour Jean Forestier.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez 22 ans et vous êtes l'un des fondateurs de Gratitude. Alors avec votre frère cadet, vous avez décidé de lancer une marque de chemise unisex 100% made in France. Et 100%, ça tombe bien puisque nous sommes 100% l'un aussi, puisque nous sommes le premier producteur. Votre campagne de crowdfunding vient tout juste de s'achever. Alors dites-moi, pourquoi deux étudiants de commerce se lancent dans ce pari? C'est aussi, je crois, une histoire personnelle. On a hâte de la découvrir et vous avez bien sûr une minute trente.
Alors, initialement, nous, on a grandi sur une petite île le long de la Loire qui s'appelle Béhuard. Et pendant notre enfance, on a été confrontés à de nombreuses dégradations dues à la pollution. Alors, en faisant des recherches, nous avons découvert que l'industrie du textile, c'est la deuxième plus polluante au monde. Donc, face à ce constat qui est réellement alarmant, nous avons décidé d'agir. Et en relocalisant la production en France, on veut réellement valoriser nos territoires, favoriser une économie locale et un circuit court. Donc on a décidé de pousser notre démarche jusqu'au choix des boutons en bois qui nous viennent du Jura et même la teinte naturelle de nos tissus qui est certifiée par le label Ecotex. Alors pourquoi le lin? Il s'agit d'une plante dont la culture réclame beaucoup moins d'eau pour pousser que celle du coton. Et en plus de ça, son impact social est bien plus bénéfique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le premier producteur mondial de lin. Et la fibre qu'on utilise, donc le lin, elle est tissée dans le Nord, avant d'être coupée et assemblée dans l'atelier de confection à Tours. Le lin qu'on utilise, il est aussi certifié par le label Ecotex, c'est-à-dire sans aucun produit chimique utilisé. Et pour finir, de la fabrication au stockage, nos chemises, elles parcourent seulement 200 km, soit environ 50 fois moins qu'une chemise fabriquée en Asie, donc en Inde ou en Chine. Voilà.
Donc, vous êtes aujourd'hui positionné pour être 100% made in France et vous faites la démonstration que c'est possible. On va voir tout de suite ce qu'en pense notre coach, Frédéric Mazella.
Oui, bonjour. Bonjour. Gratitude, le mot vient d'où?
Alors le mot, déjà, c'est un mot qui nous caractérise tous les deux, mon frère et moi, depuis longtemps. C'est un mot qu'on aime beaucoup et qu'on selon nous, on n'emploie pas assez. Et on a décidé de l'utiliser parce que la gratitude, c'est avant tout un regard sur le monde extérieur et surtout une prise de conscience du monde qui nous entoure, quoi. Donc voilà.
D'accord. Et donc vous avez parlé de la production sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, le côté local, circuit court notamment. Comment vous faites pour la distribution? Est-ce que vous comptez en fait vendre principalement en ligne, dans des magasins? Et comment se passent les transports à ce moment-là?
Alors pour l'instant, nous on a vocation à seulement vendre en ligne et à vendre par nous-mêmes. Après, on est ouvert à des propositions. On est en train de parler à quelques distributeurs. Et du coup, pour l'instant, c'est nous qui nous occupons de tous les envois, quoi.
Justement, moi, j'ai regardé. Je crois que vous avez déjà prévendu 270 chemises. J'ai les bons chiffres. Je suis à jour.
Un petit peu plus, peut-être. C'est ça.
270.
On a vendu 270 chemises pour notre première campagne, ce qui équivaut à plus de 800% de notre objectif initial et ce qui monte, heureusement pour nous, notre chiffre d'affaires à peu près 25 000 euros. Donc on est très content.
À combien
pour nous,
la chemise déjà?
Alors voilà.
La chemise, elle se vendait en précommande à 95 euros.
95 pour la précommande, ça veut dire qu'après, le prix sera un petit peu différent?
Oui, le prix sera un peu supérieur, c'est-à-dire 120 €, parce que à terme, nous, on a vraiment envie de continuer là-dedans, et ce prix de 95 €, il nous permettait de pénétrer le marché, mais à terme, voilà, on a besoin d'un peu plus pour devenir pérenne, quoi.
Vous faites la démonstration que oui, c'est possible, hein, qu'on peut véritablement aller effectivement de la plante jusqu'à la distribution en faisant toutes les étapes en France. C'est bien souvent l'argument qui nous est opposé en nous disant oui, vous comprenez, c'est beaucoup plus cher de produire en France. Finalement, peut-être pas tant que ça pour une chemise en lin fabriquée en France, unisexe, 95 € en prévente.
Alors si, c'est vrai que c'est, enfin, on a comparé avec par exemple nos voisins du Portugal, rien qu'en termes de conception, rien que sans compter le tissu, en France on est à au minimum 40 € pour la main d'œuvre, et au Portugal par exemple on est à 10-15 €, donc c'est vraiment vraiment plus cher, sans compter le tissu, hein. Le tissu c'est pareil, c'est 15 € au moins par chemise, donc voilà, il y a un vrai, c'est le prix d'un engagement en fait, et nous c'est celui qu'on voulait défendre.
Elisabeth,
est-ce qu'elles sont, enfin c'est, vous allez me dire oui, mais elles sont comment vos chemises?
Alors elles sont comment? Elles sont assez robustes. On les a testées pendant plusieurs semaines. En plus avec le lavage, elles s'adoucissent. Et malgré tout, moi je pensais que le lin, bon voilà, ça se froisse plus facilement que le coton par exemple. Et finalement, elles ont une bonne tenue parce que le grammage est assez important. Donc voilà, on est assez satisfait de ce qu'on peut proposer.
Vous avez, c'est pour qui? C'est pour tout, pour ces femmes hommes?
Oui, c'est des chemises unisexes. On a pris le parti de pas genrer nos premiers produits, quoi.
Vous êtes en pleine production.
Exactement. Donc aujourd'hui, ouais, on a lancé la production du tissu, comme la production des boutons. Donc voilà où on en est aujourd'hui.
Et livraison fin juin, c'est ça?
Livraison initialement prévue fin juin. Avec la situation actuelle, ça a été un peu compliqué, mais on est sur le pont et on fait notre maximum pour livrer pendant le mois de juillet.
Ça s'appelle Gratitude. C'est donc l'entreprise qui s'est lancée en ce moment pendant la crise. Bravo à vous. Vous nous donnez évidemment de vos nouvelles ici dans La France Bouge.
Il est 13h14.
Europe 1.
Vous avez peut-être besoin de faire des achats, vêtements d'été pour vous ou vos enfants, mais vous redoutez de vous retrouver dans un magasin avec d'autres personnes. Ne bougez pas. Elisabeth Assayag a trouvé la solution. À tout de suite.
C'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag, Raphaël.
Dans le monde qui s'ouvre à nous, faire du shopping peut parfois devenir un véritable casse-tête. Elisabeth, vous avez la solution, ça s'appelle Mob Success. Ça permet tout simplement de prendre rendez-vous avant d'aller au magasin.
Mais oui, vous avez tous vu, hein, on a tous vu les images le 11 mai, le jour du premier jour du commencement du déconfinement, le matin, ces files d'attente devant les magasins. Alors certains se sont offusqués, mais ça continue et ce n'est pas parce qu'il y a une certaine frénésie d'achat ou plus de monde. Non, la raison, eh bien, ce sont les mesures sanitaires qui ont été mises en place pour ne pas qu'il y ait foule à l'intérieur du magasin. Face à cela, une entreprise, encore une, s'est adaptée. Elle s'appelle Mob Success. À l'origine, elle fait en sorte de générer du trafic dans des enseignes. Elle attire des consommateurs vers des magasins grâce au système de la géolocalisation. Ça, c'est son activité d'origine. Mais la crise est passée par là. Et le fondateur s'est dit, je vais faire en sorte que le client n'ait pas à attendre qu'on le fasse rentrer à l'intérieur du magasin. Je vais faire en sorte qu'il ait rendez-vous directement, même avec un vendeur. Bonjour Thomas Fagot.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Mob Success. Donc Mob Success est un service sur mobile ou sur un ordinateur. Vos clients, ce sont à la fois les particuliers, mais aussi les magasins. Comment vous vous êtes organisé et adapté pour répondre à cette demande? Je crois que c'est né d'une expérience personnelle, hein, déjà.
Ben effectivement, alors pour le coup, j'ai pu me rendre dans mon enseigne de bricolage quelques semaines avant le déconfinement. Je m'y suis rendu à 3 reprises, en fait 3 jours consécutifs, et je n'ai jamais pu rentrer parce que je n'avais pas le temps d'attendre. Je voyais des queues interminables et donc du coup j'ai abandonné à chaque fois et je suis reparti bredouille pour le coup. Donc je me suis dit qu'il y avait un vrai problème. Comme vous l'avez dit, notre activité historique est de générer du trafic en magasin. On attendait la reprise impatiemment, mais tout d'un coup, on a eu cette crainte en se disant, si nos clients ne sont pas capables de gérer ce flux, ils ne feront pas appel à nos services pour faire venir des clients.
Donc c'est l'origine
vous êtes dit,
du projet.
Face à ces files d'attente, je vais trouver une solution pour que pour qu'on n'ait plus à attendre et qu'on puisse aller directement au magasin, un peu comme dans l'ancien temps.
Tout à fait. En fait, on s'est appuyé sur les principes de Drive qui ont très bien fonctionné pendant la période où on a pour habitude de réserver un créneau pour venir chercher sa commande. Et donc, on a détourné le système, ou en tout cas la mécanique, en se disant qu'on réserverait notre créneau shopping soit pour rentrer, soit effectivement pour prendre également rendez-vous avec un vendeur conseil.
Ah. Comment ça se passe concrètement? Si moi, j'ai envie de ce week-end d'aller dans une des enseignes pour tout simplement pour flâner, pour regarder des choses, comment je dois m'y prendre?
Alors, il faut que l'enseigne ait déjà embarqué la solution et pris nos services. Mm-hmm. Ensuite, très simplement, depuis votre smartphone, l'enseigne a configuré des créneaux de magasins avec des disponibilités et des plages horaires. Vous rendez sur l'adresse de l'enseigne et vous réservez directement avec votre numéro de téléphone et vous avez accès à un QR code qui vous envoyé par SMS ou email et qui sera lisible depuis le magasin directement.
Frédéric?
Oui, Frédéric Mazella, notre coach.
Oui, je me demandais, vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont pris cette solution-là, soit des anciens clients, soit des nouveaux?
Alors, on a discuté avec beaucoup d'entreprises. Clairement, la période, il y a eu d'autres priorités pour certaines et ils avaient déjà la crainte de savoir s'il y aurait assez de monde dans leur enseigne et ça a été la priorité numéro une chez eux. On est en train de la déployer. On l'a déployée pour un magasin d'ameublement qui a environ une cinquantaine de points de vente. C'était aussi pour eux un objet de réassurance du consommateur et d'acquisition. Et on discute beaucoup avec les enseignes de bricolage et de jardinerie en ce moment pour déployer la solution dans les semaines à venir, parce que pour le coup, c'est partie des enseignes qui ont des grosses problématiques actuellement.
Mais est-ce que ça va durer, ça, post-crise? Enfin, on essaye, on espère tous quand même pouvoir retrouver quelque chose d'un peu plus normal qu'actuellement. Donc, comment cette solution-là serait pérennisée? C'est-à-dire, comment vous allez pouvoir peut-être continuer à fournir un service pour ces enseignes-là post-crise s'il n'y a plus toutes les files d'attente?
Ben, sans avoir idée initialement, on a eu quelques pistes qui ont été soumises par nos clients. Justement, autour du vendeur conseil, c'est vrai qu'on peut se rendre régulièrement dans des entreprises d'électroménager ou de Hi-Fi. On a besoin d'avoir un conseil et on n'a pas forcément un vendeur disponible. Donc ça peut être la suite logique, mais dans un contexte plus favorable. Ne plus prendre rendez-vous avec le magasin, mais directement avec une personne qui serait susceptible de nous conseiller dans notre acte d'achat.
Thomas Fagot, Mob Success, on est obligé d'acheter, on est obligé de prévoir un acte d'achat ou comme le disait Elisabeth tout à l'heure, on peut prendre rendez-vous avec un vendeur simplement pour se promener dans le magasin?
Ah, c'est exactement ça, c'est tout l'intérêt, contrairement au Drive ou au Click and Collect, c'est de pouvoir juste prendre un rendez-vous shopping. Donc après, on est libre ou non d'acheter une fois qu'on s'est rendu en magasin.
Et là, vous avez déjà un certain recul, hein, puisque le début du déconfinement a commencé le 11 mai. Comment vous trouvez la consommation? Que vous disent vos clients, vos enseignes?
Alors les clients qui ont repris avec nous souvent ont été assez ambitieux et justement c'est pour ça
pour
qu'ils
rattraper.
Ont repris très tôt en termes de communication pour rattraper effectivement plus qu'un retard, en tout cas le manque à gagner des derniers mois. Clairement nos clients ça fonctionne plutôt très bien pour eux, même assez, de manière assez exceptionnelle avec des résultats historiques.
Donc quand on rentre à l'intérieur du magasin, on achète, c'est ça hein, qui ressort.
Effectivement. Alors, avec toutes les contraintes sanitaires qui ont été mises en place, hein, effectivement, les enseignes sont quand même beaucoup préparées à ça. Mais effectivement, sur les typologies d'enseignes qu'on peut avoir en client, la consommation repart de manière assez forte.
C'est aussi lié peut-être au fait que quand on a investi un petit peu de temps aussi en amont pour prendre un rendez-vous, quand on arrive, on a juste envie d'acheter, quoi.
Oui.
C'est oui, effectivement, ça peut jouer.
Ça peut jouer, mais alors, du coup, vous vous retrouvez avec deux solutions contradictoires, si j'ai envie de dire. Parce que Mob Success, au départ, c'est pour faire venir les gens. Là, finalement, vous les contingentez.
Mais oui, mais il fallait répondre au contexte. Et effectivement, c'était un peu un pari. Hein. Clairement, la genèse du projet, c'est 3 semaines avant la reprise. L'idée m'est venue. On l'a développée très rapidement, avec beaucoup d'efforts. Et on s'est dit, au pire, ça ne sert à rien, et tant mieux. Au pire, ça servira, et tant mieux également. Donc c'était vraiment pour répondre aux deux enjeux.
Eh bien écoutez, c'est plutôt bien vu, hein. Ça s'appelle Mob Success, vous nous donnerez évidemment de vos nouvelles, on va suivre avec grand intérêt, et puis on va s'en servir surtout. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de cette solution. Il est 13h24.
Europe 1.
On reste ensemble. Vos enfants font peut-être partie de ceux qui ne sont pas encore retournés à l'école. La continuité pédagogique est un vrai sujet pour les professeurs, les parents et les élèves. On en parle ensemble dans un instant dans La France Bouge. La France Bouge continue, l'école à la maison aussi. Quelle continuité pédagogique pour les élèves et quels outils pour l'assurer? On en parle dans le dossier du jour, Raphaël. École rouverte, mais avec, et vous le disiez, un nombre de places limitées, collèges fermés, zones vertes, zones rouges. On connaissait le casse-tête des emplois du temps avant le coronavirus, mais c'est vrai que ça nous a obligés à tout revoir. Et ce qui est vrai pour nos parents, l'est aussi pour les enfants, pour les enseignants qui ont dû apprendre à faire cours autrement. Alors des outils ont vu le jour, hein, pour les aider dans ces nouvelles contraintes. Bonjour Charles Ganem.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Zmooze. Alors on dit Zmooze parce que ça s'écrit avec un Z. Hein. Votre start-up aide les enseignants à organiser les cours. Vous avez, vous, pendant cette période inédite de confinement, réfléchi à la manière dont vous pouviez justement les aider à transformer les cours?
Absolument. On a une vraie difficulté aujourd'hui à pouvoir permettre aux enfants de ne pas décrocher. De nombreux professeurs nous ont dit que leurs élèves souvent n'avaient pas d'ordinateur à la maison, ou s'il y en avait, il n'y en avait qu'un pour tout le monde. En revanche, quasiment tous les élèves ont un smartphone. Aujourd'hui, il existe un format que tout le monde utilise. Il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui utilisent le format Stories, qu'on peut voir sur Instagram, TikTok, les statuts WhatsApp, Facebook, qui permet verticalement de pouvoir communiquer en plein écran, de se filmer, de rajouter des éléments. Donc nous avons créé cette application il y a quelques mois, elle ne devait pas encore sortir, mais pour aider un certain nombre de professeurs, nous l'avons sortie il y a à peine 10 jours, et elle permet aux professeurs de pouvoir enregistrer leurs cours, y ajouter des photos, des vidéos, des QCM, et de pouvoir inviter leurs élèves à assister et regarder le cours quand ils le souhaitent, quand ça leur convient, sur leur smartphone directement.
Donc mon cours d'histoire sur la guerre de 14, au lieu de l'écrire au tableau ou de distribuer des polycopiés, je peux l'envoyer en story grâce à votre appli. C'est plus ludique et surtout c'est finalement leur langage.
C'est exactement leur langage. C'est exactement l'usage également du téléphone. Et c'est également multimédia. Donc, vous parliez d'un cours d'histoire. Il y en a sur la plateforme qui ont été créés. Elle permet donc, la professeure, s'il n'a pas envie de s'enregistrer en vidéo, il suffit de s'enregistrer en audio. Elle peut rajouter des images de la guerre, des illustrations, des cartes. Slide après slide, on tape, on slide et on a une histoire complète, une story complète sur son cours. Et l'avantage, c'est qu'on peut également interagir avec les élèves en finissant son cours par un QCM et une messagerie où les élèves écrivent au professeur.
Ouais, du coup, ça permet au professeur de
garder un contact. Le professeur réalise ça très facilement.
Ouais. C'est facile à réaliser, mais ça permet aussi de garder une interaction avec les élèves.
Mais en fait, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que je peux en parler. Les enfants à la maison, c'est un effort. C'est pas évident de garder l'attention des enfants, de pouvoir, de manière quotidienne, chaque jour, faire les cours. Le fait de garder un contact visuel et auditif avec son professeur apporte énormément dans la relation et permet de garder un certain nombre de rendez-vous. Et disposer des cours de manière visuelle permet d'apporter effectivement ce côté ludique et sympa que les jeunes ont aujourd'hui avec toutes les applications qu'ils utilisent, Snapchat, TikTok, etc. Et donc ça permet de renouer le contact entre les professeurs et les élèves.
Frédéric, notre coach.
Ah oui. Donc vous avez maintenant des professeurs augmentés avec ce nouvel outil. Quel écho vous avez eu? Quelle réception vous ont fait les professeurs? Combien l'utilisent aujourd'hui?
Alors en fait, c'est un outil qui est initialement fait pour les éditeurs, Europe 1, Le Monde, le New York Times et les marques. Donc nous n'avions pas du tout pour objectif initialement de permettre aux utilisateurs, aux professeurs de l'utiliser. On l'a fait parce qu'ils nous l'ont demandé. Donc on a eu quelques professeurs dans notre entourage qui nous ont demandé un outil Et puis ça a été extrêmement bien adopté, à la fois par les profs et par les élèves. Et là, c'est une solution qu'on apporte gratuitement pour les enseignants. C'est un peu notre contribution à ce qui se passe actuellement. Et puis ça facilite la vie de beaucoup de gens, dont nous. Mais initialement, ce n'est pas notre modèle économique. Notre modèle économique est un modèle pour professionnels.
Et est-ce qu'il y a des recommandations
parenthèse que nous avons ouvert pour aider les professeurs.
Est-ce que vous avez des recommandations qui ont été émises par l'Éducation nationale qui vont dans ce sens ou qui recommandent certains outils ou certaines pratiques? Ou est-ce que vous êtes aujourd'hui en expérimentation totale?
On est en expérimentation totale puisque l'Éducation nationale a quelques outils qu'il pousse. Et puis, certains professeurs ne se sont pas retrouvés dans ces outils. Ils utilisent pour cela quelquefois Zoom, WhatsApp ou FaceTime. Et d'autres ont eu besoin d'un outil qui permet de manière asynchrone de pouvoir mettre à disposition un cours que les élèves pourront voir quand ils le souhaitent.
Alors, vous savez
C'est ce que Zmous fait.
Oui, on essaye toujours de regarder effectivement quel est l'éventail qui est à notre disposition. Et je crois qu'Elisabeth, pour continuer à enseigner de manière digitale, vous avez trouvé quelque chose aussi.
Oui, pour enseigner pour le digital, vous avez PopLab. C'est une plateforme numérique qui permet aux enseignants de préparer, d'organiser, de partager leurs cours. Alors ils ont des ressources à leur disposition et qui proviennent d'Internet, de leur propre création ou bien d'un moteur de recherche intégré qui permet de faire des recherches parmi plus de 100 000 ressources présélectionnées par une équipe de professeurs ainsi que de documentalistes.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a une étude qui est en cours sur les effets du confinement et les effets sur cette fameuse continuité pédagogique sur nos enfants.
Oui, elle est en cours en ce moment. Alors il y en a beaucoup d'études. Hein. Je pense que ça va intéresser énormément de chercheurs sur cet impact du confinement sur la continuité pédagogique, sur la relation entre les professeurs et leurs élèves. Et le laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy a lancé justement, dès le début du confinement, une première enquête en ligne qui comprend une quarantaine de questions. Comment les élèves ont-ils vécu ou vivent-ils cette période inédite? Qu'est-ce qui leur manque le plus? Qu'ont-ils retiré de cette expérience? Ou encore, dans quelle mesure a-t-elle transformé leur relation avec les enseignants? Alors, c'est encore trop tôt. Il y a eu des inégalités parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas eu accès aux outils numériques, mais l'analyse des premières réponses, que ce soit des élèves du CP à la terminale, montre qu'ils sont nombreux aussi à retirer des éléments positifs pour l'instant de cette période. Ils ont gagné en autonomie, peut-être moins stressés, ils ont peut-être mieux dormi, ils ont apprécié pour certains d'entre eux de pouvoir travailler à leur rythme et heureux de passer plus de temps en famille. Et un lycéen de terminale, il y a des verbatims, qui considèrent que pour le travail, ce confinement était presque parfait, ou encore une élève de CM2 qui a dit « Je suis libre et je me sens plus apaisée, je peux choisir ce que je souhaite apprendre ».
Alors faire cours pendant la période de confinement et même avec le déconfinement, c'est vrai, avoir un pied en classe et un pied chez les élèves, mais il faut pouvoir continuer aussi à les évaluer, savoir où ils en sont, s'ils progressent. Et là aussi, bien des progrès ont été faits. Bonjour Stéphane Bodin. Stéphane Bodin, vous êtes avec nous? Cofondateur de Nota. Oui, on vous entend. Cofondateur de Nota Bene. C'est une plateforme de correction, d'évaluation pour les professeurs. Avec la distance et le retour progressif d'une partie seulement des élèves, on ne peut pas ramasser les copies. Mais aujourd'hui, il existe d'autres moyens d'avoir un œil justement sur le travail de nos enfants?
Oui, tout à fait. Chez notabene.club, en fait, on a développé un petit peu avant le confinement, malheureusement pour nous, un outil qui permettait aux enseignants de corriger en fait leurs évaluations, mais en présentiel, parce qu'on a une petite, moi-même étant enseignant, une petite aversion avec le e-learning qu'on peut expliquer, qu'on peut comprendre. Et c'est vrai que tout de suite, immédiatement après le confinement, il n'y avait plus de copies, il n'y avait plus d'oraux, il n'y avait plus de présence comme ça. Et donc, oui.
Allez-y.
Oui, je vous en prie, merci. Et donc, en fin de compte, on a réussi à modifier un petit peu notre outil. Alors, il faut comprendre un petit peu ce que c'est Nota Bene Club. C'est un outil qui permet de transformer votre ordinateur ou votre téléphone portable en fait en stylo rouge.
Ouais.
Donc, on est vraiment dans les pratiques de l'enseignant. On est très loin de le limiter ou de le restreindre dans ses choix. Donc, vraiment, il a une sorte de stylo rouge dans sa poche. Petit problème, évidemment, il faut pouvoir rendre les copies aux élèves. Ouais. Et lors du confinement, l'une des plus grandes difficultés, je pense, qu'on a vécu, et je dis on parce qu'encore une fois, je suis enseignant, c'était de trouver des canaux de communication avec les élèves, en fait. Donc beaucoup de choses ont été essayées, je pense que beaucoup de choses ont un petit peu déçu, et en fin de compte, l'un des meilleurs supports, ça reste ce que les enseignants appellent l'ENT, c'est-à-dire l'environnement numérique de travail, c'est l'endroit où les parents, les professeurs, les élèves retrouvent les notes, l'emploi du temps. Et donc on a développé un outil qui permet à l'enseignant, en cliquant sur un bouton, en fait, d'envoyer directement ses corrections, ses commentaires et ses avis sur l'ENT de l'élève et des parents. C'est vraiment très efficace.
Mais comment est-ce que vous l'avez rempli ce logiciel pour qu'il sache où sont les points saillants, où on puisse avoir un côté finalement interactif qui permet de stimuler l'élève une fois qu'il a récupéré sa copie?
Alors en fait, l'idée qui est intéressante, c'est que l'interaction, enfin encore une fois, c'est une conviction chez moi en tant qu'enseignant et aussi en tant que papa, c'est que l'interaction, elle ne doit pas forcément passer par la machine, elle ne doit pas forcément passer par le numérique ni par l'écran. Et en l'occurrence aujourd'hui, ce qui a été extrêmement stimulant pour les enfants, et on l'a reçu de la part des enseignants qui utilisent Nota Bene, c'est que l'interaction se fait avec leur professeur justement. En fait, on a favorisé le lien qu'il y avait entre le professeur et l'élève. Donc ce qui était extrêmement stimulant pour les enfants, et là je lis un message d'un collègue qui vient de nous envoyer ça, donc il explique: j'ai envoyé vers l'ENT hier une correction terminée et tous mes élèves ont reçu leur bilan via un lien dans une discussion. J'ai reçu un grand nombre de messages de remerciements de leur part. Cette fonctionnalité est très efficace, merci beaucoup. Vous voyez, en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est qu'on on s'extrait un petit peu du moyen pour aller vers le fond, en fait, vers le contenu pédagogique, c'est-à-dire vers ce quoi, en fait, l'enseignant prend plaisir à faire.
Vous avez trouvé autre chose, hein, je crois, Elisabeth, pour évaluer. Il y a d'autres outils.
Vous avez EduSign, qui sont des feuilles d'émargement dématérialisées. C'est beaucoup plus rapide, c'est numérique. Ou encore Plickers. Plickers, c'est une application en ligne qui permet de générer des QCM interactifs. Chaque élève dispose d'une carte munie d'un QR code qu'il présente dans le sens voulu en fonction de sa réponse. Et l'enseignant recueille les réponses des élèves à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone.
Smooz et Nota Bene, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. La France Bouge continue, 13h38.
Europe 1.
Des outils pour les enseignants, c'est utile. Il faut aussi pouvoir garder le lien avec les parents et assurer le soutien scolaire. Cet après-midi, on parle des outils pédagogiques mis en place pour assurer la continuité des cours pour les élèves et les professeurs, Raphaël. Et c'est vrai que cette année scolaire ne sera pas comme les autres, hein, puisque dès la mi-mars, les enfants ont dû quitter les classes. Alors, il a bien fallu trouver des modes d'enseignement à distance, des moyens de communiquer aussi. Bonjour Sandra Béraudeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Kids Care, qui est une filiale 100% de la Poste. Vous avez mis au point une appli mobile et web française à 100%. Ça fait 2 ans que la start-up existe. En fait, ce système n'a pas besoin de collecter les adresses mail des parents. Tout est déjà à l'intérieur.
Oui, en fait, on est la seule et la première application qui permet de garder le contact entre la mairie, les écoles et les parents. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ça fait partie des missions du service public de la mairie que de gérer les écoles, comme on appelle de premier degré, c'est-à-dire les maternelles et les élémentaires. Et donc, on regroupe en fait tous ces acteurs. C'est ça qui fait vraiment la force de cette application. On a entendu par les interventions précédentes, effectivement, il y a beaucoup d'applications qui sont sur le scolaire, qui vont permettre de garder du lien, notamment avec de la continuité pédagogique entre les enseignants et les parents. Mais nous intégrons également les directeurs d'école pour avoir une vision complète sur un établissement scolaire, et également la mairie avec tout ce qui est périscolaire et extrascolaire, donc toutes les personnes qui dans les écoles, vous savez, gèrent la restauration, l'accueil du matin, l'étude du soir, et ainsi de suite.
Ouais, vous avez ouvert gratuitement votre appli aux écoles. Vous êtes, je peux dire, hein, peut-être le cahier de liaison 4.0. Qu'est-ce qu'on partage dans cette appli?
Alors c'est ça, on a un premier volet qui est effectivement la communication, donc qui remplace le fameux cahier liaison papier. Donc tous les parents le savent et on a tous vécu des mots qu'on n'a pas vus à temps parce que voilà, ils étaient au fond du cartable ou l'enfant avait oublié le cahier à l'école. Donc on a toute cette communication qui peut parfois être un petit peu mise dans la catégorie communication administrative. Aujourd'hui, les enseignants, les directeurs, les mairies l'utilisent beaucoup pour savoir qui reprend le chemin de l'école, qui ne le reprend pas, et voilà, d'échanger sur tous ces sujets. On a également tout ce qui est continuité pédagogique à travers un cahier de texte numérique qui permet aux enseignants de partager les leçons, les devoirs avec des liens, des pièces jointes. tout ce que le numérique peut apporter aujourd'hui, ce qui permet aux enfants derrière de réaliser les devoirs, de poster les devoirs faits et de savoir ce qui est fait, ce qui reste à faire.
Frédéric Mazella.
Pour les plus petits, on embarque un cahier de vie.
Oui, un cahier de vie. Alors, on va y revenir. Frédéric Mazella, notre coach.
Oui, j'ai juste une question parce que du coup, beaucoup de souvenirs de ma période scolaire me reviennent. Des petits mots ou parfois des observations, des choses comme ça. Moi, il me fallait toujours que je prépare psychologiquement mes parents au fait qu'il pouvait y avoir un mot de travers et qu'il fallait que je donne le contexte, quoi. Donc, si on a une application qui directement envoie, je sais pas, une observation ou quelque chose aux parents, ça laisse pas le temps aux enfants d'expliquer pourquoi. Donc, comment on fait?
C'est vrai qu'on a tous ces souvenirs-là. On a tous ces souvenirs-là. La maîtresse, par exemple, de ma fille, leur dit en classe, elle met des barres de comportement pour les petits qui sont pas très sages, et elle leur dit attention, au bout de la troisième barre, ce sera un mot dans Kids Care pour vos parents. Donc forcément, ça fait sourire ma fille parce que elle se dit mince, quelque part, c'est à cause de maman. On pense tous à ça, mais après, il faut surtout voir tous les messages vraiment importants pour l'école et pour les parents qu'il faut voir presque en instantané, et surtout pas oublier au fond du cartable. Donc ça rend énormément service aux parents, aux enseignants et aux directeurs d'école, et également côté mairie, surtout dans les temps qui courent où on a plus contact physique.
Elisabeth, la continuité pédagogique, je vais y arriver, c'est aussi notre relation avec son professeur. On le voit là, avec les différentes fonctions qui nous sont présentées.
Oui, et d'ailleurs, l'enjeu du déconfinement, c'est la continuité pédagogique est importante, mais c'est surtout cette relation au professeur, parce que même s'il y a beaucoup d'élèves qui ont réussi à tirer des éléments positifs de cette période, dans leur façon de travailler, et avant tout dans la relation avec leur professeur. Parce que ceux qui continuent à avoir classe à travers des écrans, forcément le lien avec le professeur n'est plus le même. Au début, la situation a pu être déstabilisante, mais elle a aussi été l'occasion de se former rapidement, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, à ces nouvelles pratiques, de découvrir des nouvelles ressources chez les élèves, faire davantage connaissance finalement entre l'élève et le professeur. Et ce sera intéressant de voir comment tout ça va évoluer quand le présentiel sera de retour.
Alors venons-en aussi, si vous le voulez bien, aux devoirs, hein, parce que c'est aussi une partie du travail à distance. Quand les élèves ont du mal à suivre et qu'il n'y a personne à la maison pour les aider, c'est compliqué. Bonjour Anis Ladjal.
Bonjour madame.
Merci
Anis
d'être avec nous, directeur général et cofondateur de Postexo. C'est une plateforme qui met en relation les professeurs et les élèves pour démocratiser justement le soutien scolaire, c'est ça?
Oui, exactement. Alors, le principe, c'est que quand vous êtes un élève, que vous avez besoin d'aide pour résoudre un exercice ou pour vous faire expliquer une leçon, vous vous rendez sur l'application qui est disponible sur smartphone et tablette, vous prenez en photo votre requête et vous la postez sur la plateforme. Donc là, les professeurs reçoivent une notification leur disant qu'un exercice a été posté dans leur matière et peuvent entrer en contact avec l'élève. Donc le contact qui se fait d'une part par une conversation téléphonique. Et d'autre part, vous avez un tableau blanc interactif sur lequel le prof et l'élève peuvent écrire, ce qui donne en fait un stimuli visuel pour que l'enseignement se fasse.
Donc si je sèche sur un exercice de maths, ce qui m'est arrivé un paquet de fois, hein, j'avoue, je peux le prendre en photo, l'envoyer sur l'application, il y a un professeur qui va voler à mon secours.
Exactement. Exactement. Et pour les maths, en l'occurrence, ça prend moins d'une minute.
Elisabeth?
Oui, vous parlez des maths, ça prend moins d'une minute, mais il y a souvent des méthodes en mathématiques, hein, et chaque méthode, ça dépend du niveau, ça dépend, est-ce que le professeur il peut répondre à tous les niveaux, parce qu'au fur et à mesure des années, souvent on change de méthode, et donc l'élève peut se tromper, parce qu'il n'a pas appliqué la méthode que souhaite son professeur.
Ah non, mais justement, en fait, nos professeurs sont très au fait de la question. Ils sont tous expérimentés. Ce sont des professeurs qui sont certifiés, agrégés, étudiants en grandes écoles. Ce qui fait que... Et en fait, le professeur choisit le niveau pour lequel il décide de corriger l'élève. Donc, par exemple, on a énormément d'élèves qui viennent d'intégrer leurs grandes écoles. Donc, pour eux, par exemple, les souvenirs de classe préparatoire sont encore frais. Du coup, ils ont parfaitement intégré ce qui se faisait en classe préparatoire. Mais par exemple, on a des profs de collège qui vont corriger essentiellement les élèves de collège et de lycée, etc.
Frédéric ?
Oui. Est-ce que les élèves eux-mêmes peuvent se conseiller entre eux sur cette application ou est-ce que c'est un canal principalement des élèves vers les professeurs ?
À terme, c'est aussi quelque chose qu'on compte faire, c'est mettre à disposition la plateforme PostExo pour créer un réseau social d'entraide entre les élèves.
Oui, d'accord.
Il y a un autre projet, en fait, c'est du fait de PostExo, c'est-à-dire la conversation téléphonique et le tableau blanc. Vous avez une résolution qui peut se faire en direct. Du coup, si vous enregistrez cette résolution, on peut créer un Spotify d'exercices corrigés.
En tout cas, c'est très complet. Alors, je précise que c'est payant, mais effectivement, comme en principe, la résolution des exercices se fait rapidement, ça ne prend que 5 minutes, c'est facturé aussi à la minute et ça fait partie des aides, des soutiens qui peuvent aussi finalement permettre de réduire les inégalités éducatives. Merci d'avoir été avec nous dans La France Bouge, 13h49.
Europe 1.
On va donner un coup de main à un patron, un commerçant, un artisan. C'est avec la CCI France dans un instant sur Europe 1. A tout de suite. Et c'est le moment de découvrir le coup de main de la France Bouge, Raphaël. Oui, avec Nathalie Carré, CCI France, experte évidemment en entrepreneuriat. Bonjour Nathalie.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Chaque jour, nous essayons d'aider un patron, un commerçant, un artisan qui a soit une difficulté à résoudre, soit une question qui est restée en suspens. Aujourd'hui, c'est Frédéric Messonna qui est avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être là en direct sur Europe 1. Vous êtes le patron du Dancing de la Jaille, qui est une salle de thé dansant et de concert dans la Drôme, à Jaillan.
C'est ça.
Quelle est votre question ? Quel est votre problème aujourd'hui, Frédéric ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité. Alors la question va concerner un petit peu les fermetures que nous subissons actuellement dans nos salles. Hein, mon dancing est plutôt assimilé à une discothèque, même si c'est pas réellement ça. Mais dans ce bâtiment, il y a aussi une partie bar du village. C'est-à-dire que si, par exemple, comme je l'entends dire, on nous permet d'ouvrir les bars à partir de début juin, oui, mais que les discothèques sont censées ouvrir beaucoup plus tard, ce qui, a priori, devrait se passer, est-ce que si, par exemple, j'ouvre ma partie bar ou sur lequel je fais un tout petit chiffre d'affaires, ça risque peut-être de me faire enlever toutes les aides que j'ai sur toute la partie du bâtiment ? Je ne sais pas si ma question est claire.
Votre question est très claire. Effectivement, si vous avez une ouverture partielle, est-ce que ça fait sauter les aides dont voilà, vous bénéficiez aujourd'hui, Nathalie Carré ?
Oui, c'est ça.
En fait, alors ça va dépendre de plusieurs choses et notamment de ce qui est inscrit sur les statuts de l'entreprise ou sur l'immatriculation de l'entreprise, l'activité qui a été inscrite. On peut faire des évolutions rapidement, hein, mais effectivement, si cette notion de barre est inscrite quelque part, ou en tout cas qu'elle est sous-tendue, à ce moment-là, rien ne vous empêche d'ouvrir le bar en tant que bar, puisqu'ils vont être possibles d'ouvrir. Enfin, en priori, on oui, attend encore le protocole de sanitaire.
On sera fixé demain.
C'est ça. On va savoir demain, donc c'est rapide, sans que vous preniez de risque sur l'autre partie de l'activité. Donc, a priori, il y a aucune inquiétude, mais il faudrait qu'on ait un peu plus d'infos sur votre possibilité légale d'avoir ce partie bar, même si le chiffre d'affaires est assez faible, puisque finalement, même s'il est faible, à un moment donné, il risque de faire 100% de votre chiffre d'affaires, en fait, même si au global, il est faible.
Ouais, Frédéric,
je pense pas qu'il fera 100%. C'est vraiment une toute petite partie, si vous voulez, mais en fait, c'est très complexe. Là, je suis dans un bâtiment qui est déclaré plus en restaurant dansant à la base. C'est une vieille guinguette que j'ai transformée en dancing. Donc aujourd'hui, on est dans un code d'entreprise plutôt restaurant, si vous voulez.
Eh ben, nickel.
Discothèque,
eh ben, c'est parfait.
Voilà.
Eh ben, oui, mais a priori, bientôt. A priori, les restaurants sont sur le point d'ouvrir.
Non, mais ça dépend des zones. Vous êtes en zone verte.
Voilà, c'est la partie discothèque. Là, voilà, c'est la partie discothèque qui va être bloquée. Et malheureusement, c'est la partie discothèque qui fait 80% de mon chiffre d'affaires.
Oui, d'où effectivement le problème que vous évoquiez.
C'est pour ça que j'ai dit, si j'ouvre pour faire 20%, c'est compliqué d'enlever toutes les aides. Voilà, c'était un peu
Il faudrait pas que vous ouvriez 20% de votre activité et que vous ne touchiez plus rien. Effectivement, c'est une partie de la problématique. Nathalie, on peut aussi peut-être essayer d'inventer autre chose.
Mais là, ce que je me disais, mais il faut voir la configuration des lieux, c'est peut-être effectivement, vous avez vu, enfin vous avez probablement vu les futurs protocoles pour tout ce qui est restauration bar, qui vont nécessiter en fait de l'espace, beaucoup d'espace. Est-ce que vous pouvez pas utiliser la superficie de votre discothèque pour que accueillir un bar du coup beaucoup plus large et effectivement du coup permettre d'avoir suffisamment de clients côté bar en utilisant la superficie de la discothèque. Ça pourrait être une option.
Oui,
il faut vérifier, mais ça pourrait être une option. Frédéric.
Bien sûr. Alors après, je me permets, on m'avait dit aussi que je pouvais parler de ma recherche au niveau de l'antenne.
Bien sûr.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent. J'ai donc, pour synthétiser tout ça, un bâtiment que j'exploite à moitié, on va dire, puisqu'il y a toute une partie également restaurant et cuisine que je n'exploite pas. Aujourd'hui, pour pouvoir se relever de tout ce qui vient de se passer, nous cherchons activement un partenaire, un professionnel restaurateur ou traiteur qui souhaite un local et une clientèle déjà existante et qui n'aurait peut-être rien aujourd'hui pour venir s'installer avec nous. C'est-à-dire qu'on cherche soit un associé pour venir rajouter la restauration sur notre partie dancing qui en a fort besoin, soit éventuellement on est prêt carrément à lui laisser l'affaire si c'est quelqu'un de sérieux. Voilà.
Ah oui, donc parce c'est que c'est vous le disiez, une vieille guinguette dans le Vercors et au bout de 3 ans ça commence à aller et là patatras, la crise du coronavirus. Que dit notre coach Frédéric Mazella?
Vous avez tout compris, on commençait juste à bien fonctionner, on va dire, même très bien. On avait même des artistes comme Michael Jones qui étaient prévus, les Forbans. Enfin, on fait des choses extraordinaires ici dans la Drôme. Mais il nous manque cette partie restauration. Et aujourd'hui, si on ne la trouve pas après cette crise-là, ça va être très compliqué de relancer l'activité, quoi.
En tout cas, l'appel est lancé. Fred Mazella.
Oui, évidemment, je pense qu'il faut attendre déjà les mesures qui vont être annoncées dès demain, mais... Au-delà de ça, moi, je propose. Enfin, c'est peut-être une idée un petit peu, novatrice, mais ça peut attirer beaucoup. Vous inventez une nouvelle danse et vous le faites savoir. Et c'est une danse à distance et vous respectez toutes les consignes sanitaires et
c'est
vous êtes le créateur de la nouvelle danse que tout le monde veut faire.
Non, mais c'est vrai.
C'est
une très
bonne idée.
On a les mêmes classiques, hein, Elisabeth, la danse des canards.
C'est une très bonne idée, Fred. Après, c'est vrai que je rebondis quand même là-dessus, c'est que ça n'enlèvera pas le fait que si on nous limite le nombre de personnes qui vont rentrer et que, comme je l'entends dire, on nous demande de mettre d'acheter des masques, d'acheter du gel pour les clients, de mettre une personne pour désinfecter, de faire des vestiaires, enfin, ça nous fait des frais en plus avec moins de monde qui rentre. Aujourd'hui, je vous avoue que, comme la plupart des patrons de discothèques, dans ces conditions, il vaut presque mieux rester fermé.
Ouais, ou alors faire venir, et on en a reçu sur l'antenne d'Europe 1, Elisabeth, DJ à distance qui organisent justement en vidéo et qui permettent finalement
de s'inscrire. Ça vous permettra surtout de conserver votre communauté, parce que vous nous dites que vous avez déjà, ça a commencé à très très bien marcher. Donc l'objectif là, avant que les choses aillent mieux, il faut conserver vos fidèles. Et tous les moyens sont bons, donc pourquoi pas un DJ à distance.
Ouais, de l'événementiel.
C'est vrai qu'on est c'est un domaine un peu particulier. C'est vrai que je l'ai pas évoqué tout à l'heure. On n'est pas tout à fait une discothèque. Notre slogan, c'est la boîte de ceux qui n'aiment pas les boîtes. C'est-à-dire qu'on a voulu
faire
là-dessus. On s'adresse justement. Voilà.
Donc
ça fait souvent sourire, mais c'est.
Aux danses de salon plutôt, alors.
Voilà.
Danses de salon. Et puis surtout, tous les gens qui ont plus de 30, 40, 50 ans, qui veulent aller danser sur les années 80 et plus du tout. Et il y a encore des slows chez nous. On est une rare discothèque où on met des slows.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Mais c'est des slows.
Mais
en période actuelle,
les slows en ce moment,
c'est compliqué.
Il faut essayer d'imaginer à distance. Ça peut être amusant. Merci en tout cas Frédéric d'avoir été avec nous. On espère vous avoir un peu aidé. On se retrouve Nathalie Carré, Elisabeth Assayag, Frédéric Mazella dès demain entre 13h et 14h.
Merci et à demain Raphaël Duchemin.